Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, et le député Nicolas Metzdorf dénoncent l'obstruction de LFI pour le report des provinciales. Les Insoumis assument avoir déposé 2000 amendements sur la proposition de loi organique qui compte seulement 3 articles. Le groupe UCF-LNKS et nationalistes demande la démission d'Alcide Ponga et envisage le dépôt d'une motion de censure. Virginie Rufnacht parle d'arguments fallacieux et de LFisation des indépendantistes qui cherchent le chaos institutionnel. L'actualité nationale, une première nuit derrière les barreaux pour Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République a été incarcéré à la prison de la Santé hier soir pour nous. Ses avocats parlent d'un jour funeste pour la France et déposent une demande de remise en liberté. Le sport et William Pachot qui refroidit le Bayer Leverkusen. Dès la 7e minute de jeu, le Parisien a ouvert le score sur la pelouse allemande. 1-0 pour le PSG après 30 minutes de jeu dans ce troisième match de la première phase de la Ligue des Champions. La météo en Nouvelle-Calédonie, une vigilance jaune pour de fortes pluies et des orages sur l'ensemble du territoire. Les nuages s'imposent encore aujourd'hui. Des cellules orageuses se développent sur le relief et débordent localement vers les côtes et notamment sur l'ouest. Quant au vent, il reste faible et les températures maximales s'échelonnent entre 26 et 30 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry. Bonjour.
Et à la une, l'actualité politique calédonienne.
Oui, et Yael Braun-Pivet dénonce une pure obstruction du groupe LFI. La présidente de l'Assemblée nationale écrit un communiqué alors que la France insoumise a déposé près de 2000 amendements à la proposition de loi organique visant à reporter les élections provinciales à 2026. C'est davantage que le nombre d'amendements déposés pour le budget de la France. Dans un communiqué, le groupe LFI a lui assumé un barrage parlementaire, estimant qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de reporter ces élections, sauf à vouloir passer en force sur le projet de Bougival. Fin de citation. Réaction également du député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf. Il a publié un communiqué il y a quelques minutes. Il qualifie les insoumis de preneurs d'otages de la Nouvelle-Calédonie qui choisissent la provocation et le désordre. Le droit d'amendement est un pilier de notre démocratie, mais le détourner pour empêcher le vote d'un texte de paix, c'est trahir l'esprit même du Parlement. Honte à ceux qui saccagent la démocratie et le Parlement. Fin de citation de ce communiqué du député de la première circonscription. Et dans ce contexte, et à la veille de l'examen de la proposition de loi organique en séance publique à l'Assemblée nationale, l'UNI, de son côté, écrit une lettre ouverte aux députés. L'Union nationale pour l'indépendance déclare que le vote en faveur du report des élections provinciales serait un signal fort, celui du soutien au compromis, à la responsabilité et à la paix, Charlotte Coulson.
Le groupe indique, et je cite, que l'accord de Bougival propose un dispositif rénové d'autodétermination, porteur d'une vision inclusive de la souveraineté de Kanaky-Nouvelle-Calédonie en partenariat avec la France. Notre objectif politique demeure inchangé, dit-il, faire accéder notre pays à la pleine souveraineté dans un esprit de co-construction avec l'État français et dans le respect des aspirations de toutes les composantes de la société calédonienne. Fin de citation. Pour la délégation unie, les événements de mai 2024 ont laissé des séquelles profondes dans la société kanak, le monde coutumier et le mouvement indépendantiste. Dans ce contexte, la tenue des élections provinciales en novembre risquerait de raviver les tensions et de compromettre le climat apaisé instauré par Bougival. Ce scrutin à si brève échéance rouvrirait un débat polarisé, alors même que le compromis politique de Bougival avait permis de restaurer les conditions d'un dialogue constructif. Il ne ferait que reconduire les équilibres politiques existants sans offrir de solutions durables aux enjeux institutionnels, économiques et sociaux du pays. Enfin, l'UNI affirme que ce report n'est en rien une manœuvre liée au corps électoral, mais une mesure de sauvegarde pour garantir l'existence, l'amélioration et la mise en œuvre de l'accord de Bougival. Fin de citation.
Et j'ajoute que Manuel Valls, l'ancien ministre d'État aux Outre-mer, a été auditionné la nuit dernière par la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, tout comme les deux députés calédoniens. La proposition de loi organique a été adoptée par le Sénat et la Commission des lois à l'Assemblée nationale et doit être examinée donc la nuit prochaine en séance publique. Je rappelle que le texte doit être examiné donc la nuit prochaine et être adopté dans les mêmes termes qu'au Sénat pour pouvoir être promulgué avant le 2 novembre, sans quoi les élections provinciales se tiendront avant le 30 novembre prochain. L'actualité politique, c'est aussi le groupe UCF-LNKS et nationalistes au Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui demande la démission du président du gouvernement. Pierre-Chanel Tutugoro publie une lettre ouverte adressée à Alcide Ponga pour appeler solennellement à sa démission, Elisabeth Noir.
Et on se demande un peu quelle mouche a piqué Pierre-Chanel Tutugoro pour demander aujourd'hui et dans le contexte économique et politique actuel la démission d'Alcide Ponga. Il le fait dans une longue lettre de 4 pages qui énumère des griefs qu'il résume en une formule. On est passé d'une promesse de reconstruction à une dérive libérale et néocoloniale. Sous votre présidence, écrit Pierre-Chanel Toutougoro, la Nouvelle-Calédonie s'est replacée de fait sous la tutelle financière et administrative de l'État. Les réformes profondes que le pays attendait ont cédé la place à une succession de réformettes sans cohérence, traduisant plus une inertie qu'un courage politique réel. Apparemment, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la réunion hier matin de la commission des finances et du budget du Congrès et la ventilation de la TGC. Et aussi le fait que la dernière proposition de taxation des riches, formulée par le groupe UCF-LNKS, n'ait pas été suivie d'effet.
On avait proposé un certain nombre de documents pour aider et accompagner les réformes fiscales qui étaient nécessaires pour aider à sortir le pays dans la création de richesses avec la doctrine fiscale du groupe. Donc il n'y a pas eu d'écoute de leur part. En tout cas, ils ne sont pas revenus vers nous pour échanger, pour discuter. Ensuite, les simples petites réformes qu'on a eues, c'est des réformettes en fait, mais qui nous fait comprendre que les réformes structurelles, ce n'est pas demain la veille qu'ils vont être engagés. Donc on fait beaucoup de communication, mais il n'y a rien qui est engagé.
Le groupe UCF-LNKS demande donc la démission d'Alcide Ponga et indique que s'il refusait, le groupe prendrait toutes ses responsabilités institutionnelles et politiques pour mettre un terme à sa gouvernance. La solution qu'a trouvé Pierre-Chanel Toutougoro, c'est le dépôt d'une motion de censure.
On va faire la tournée des groupes constitués au Congrès, on va leur expliquer notre démarche et puis on verra bien. Mais en tout cas, la motion de censure sera déposée. On laisse du temps, on a fait une première démarche aujourd'hui et ensuite on verra dans une semaine ou deux s'il faut aller au-delà de cette lettre ouverte.
Ça veut dire que d'ici une semaine, vous pourriez déposer la motion de censure?
C'est cela même.
Le groupe UCF-LNKS envisage le dépôt d'une motion de censure. Il faut dire qu'il n'a pas d'autre moyen de faire tomber le gouvernement. Il ne peut pas démissionner. Puisque Calédonie Ensemble a fait tomber le gouvernement de Louis Mapou il y a moins de 18 mois, c'était en décembre 2024.
Le président du gouvernement n'a pas souhaité répondre à cette lettre ouverte, mais c'est la chef du groupe Rassemblement au Congrès, Virginie Rufnac, qui s'exprime en réponse à ce qu'elle qualifie d'artisan du chaos.
On assiste à une totale LFisation du groupe UCF-LNKS. L'objectif est de créer le chaos dans les institutions. Aujourd'hui, on demande la démission du président du gouvernement pour des raisons totalement fallacieuses, notamment l'absence de réforme. On constate qu'en fait, le groupe UCF-LNKS est systématiquement absent de toutes les réunions que le gouvernement organise pour justement planifier le plan de réforme. Et ils ont le culot, ensuite, de venir dire qu'il n'y a pas assez de réformes. Donc on le voit bien, c'est la stratégie du pire, à l'image de ces LFI qui sont en train de déposer 1400 amendements sur le projet de loi organique de report des élections provinciales. On n'est pas là pour construire, on est là pour détruire. Et puis finalement, cette motion de censure qu'ils souhaitent pour le président du gouvernement calédonien, c'est un copier-coller de la motion de censure des LFistes à Paris contre le gouvernement national. Donc, soi-disant, ils seraient indépendantistes, mais en fait, ils sont conseillés par les LFistes et ils font un copier-coller des stratégies métropolitaines en la matière.
Et dans une lettre ouverte donc adressée au groupe UCF-LNKS et nationaliste, Virginie Rufnac poursuit « Vous brandissez l'étendard de la souveraineté alors que vous avez soumis le pays à une extrême dépendance financière de l'État. Vous qui prétendez incarner le peuple au pouvoir, vous l'avez totalement négligé, la jeunesse en particulier », ajoute Virginie Rufnac, qui conclut en affirmant « La Nouvelle-Calédonie n'a pas besoin de donneurs de leçons, elle a besoin de bâtisseurs ».
C'est vraiment désolant d'en arriver à ce type de comportement, de coups bas, de petites manœuvres politiciennes de bas étage, alors que la Nouvelle-Calédonie a besoin véritablement d'une grande responsabilité de l'ensemble de ses élus territoriaux pour sortir finalement la population calédonienne des grandes difficultés qu'elle subit aujourd'hui.
Le chef du groupe Rassemblement au Congrès, Virginie Rufnac, qui réagit donc à ce courrier du groupe UCF-LNKS et nationaliste qui demande la démission du président du gouvernement, Alcide Ponga. En bref, ce communiqué commun du procureur de la République Yves Dupas et du procureur général Camille Miansoni qui évoque le contexte actuel du processus engagé sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Dans ce contexte, rappelle-t-il, le ministère public reste particulièrement vigilant sur le respect de l'état de droit et le caractère inacceptable de toute action qui viserait à troubler l'ordre public, à provoquer des appels à la haine ou à la violence ou à intimider les personnes titulaires d'un mandat électif. Le procureur de la République et le procureur général soulignent que de tels agissements délictueux, qui constituent des atteintes graves à la sécurité des personnes et des biens, justifieront un traitement judiciaire particulièrement diligent et ferme. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Comprenez-vous la démarche du groupe UCFLNKS qui demande la démission du président du gouvernement? Si vous la comprenez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, 88% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour adopter la loi organique qui vise à reporter les élections provinciales. Ils sont donc 12% à penser que ce ne sera pas le cas. Merci pour votre participation et rendez-vous demain, jeudi, pour la réponse à la question du jour. En bref, le 14 octobre dernier a eu lieu la réunion plénière de lancement des travaux de refondation du modèle économique et social. Une réunion à laquelle ont pris part les différents acteurs institutionnels, économiques et sociaux et qui a vu l'intervention en visioconférence de la nouvelle ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou. Dans un communiqué, la mission interministérielle présidée par Claire Durieux dresse le bilan de cette première réunion. Elle annonce que le comité de pilotage fera le point sur l'avancée des travaux le 6 novembre prochain, y compris sur les groupes de travail dont les animateurs et les participants seront désignés dans les jours qui viennent, indique la commission interministérielle qui se réunira pour sa prochaine plénière le 2 février 2026. Et puis avec la nomination du gouvernement Lecornu, plusieurs postes restent à pourvoir, notamment celui de la préfecture de Paris, depuis que Laurent Nunez, qui occupait le poste, a été nommé place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Son successeur à la préfecture de Paris doit être nommé au prochain Conseil des ministres ce soir pour nous. Trois noms circulent pour remplacer Laurent Nunez et l'un d'entre eux, qui semble tenir la corde, est Patrice Faure. L'ancien commissaire en Nouvelle-Calédonie est actuellement le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron à l'Élysée et cette proximité avec le chef de l'État pourrait emporter la décision. Notez que la nomination du préfet de police de Paris se fait sur proposition du ministre de l'Intérieur, mais qu'elle reste une prérogative du chef de l'État en raison de la sensibilité du poste. Il est 6h passé de 43 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et notamment l'incarcération hier soir pour nous de Nicolas Sarkozy.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Attention, arrivage massif de fleurs artificielles chez Cheval Distribution. Fleurs artificielles de qualité, tiges, bouquets, compositions et tout ça à petit prix. Disponible dès maintenant chez Cheval Distribution Bellevie et Apogotti. Fleurs artificielles pour tous les goûts et tous les budgets.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Nicolas Sarkozy va donc passer sa première nuit en prison. Ils étaient nombreux hier soir à le soutenir lors de son départ vers la prison de la Santé, notamment sa famille. Nicolas Sarkozy qui est parti vers 9h, 18h pour nous, de chez lui, rue Pierre Guérin, dans le 16e arrondissement de la capitale, vers son lieu d'incarcération. Alexandre Chauveau était sur place pour Europe 1.
Une foule silencieuse massée devant le domicile de Nicolas Sarkozy jusqu'à l'arrivée de l'ancien président au bras de Carla Bruni. Nicolas Sarkozy descend la rue à pied, salue la foule et sa famille. L'image restera gravée pour Hugues, habitant du 16e arrondissement de Paris.
Je trouve qu'il est digne et qu'il fait face aux épreuves avec courage.
Comme lui, des centaines d'anonymes, souvent d'anciens électeurs, sont venus apporter leur soutien à Nicolas Sarkozy, Jean, étudiant de 25 ans.
De mettre en prison à cet âge-là, c'est honteux, honteux, vraiment. Et donc, c'est important qu'on soit réunis pour montrer des jeunes, des moins jeunes, la ferveur que nous avons pour un ancien président, pour le respect de la fonction.
Les proches de Nicolas Sarkozy sont également présents, comme l'ancienne ministre Nadine Morano, outrée par l'incarcération de l'ancien président.
Je suis là pour le soutenir et lui dire que beaucoup de Français sont tellement scandalisés par ce qui se passe ce matin que, je me devais d'être là.
Nicolas Sarkozy, lui, affiche sa sérénité, embrasse une dernière fois ses enfants avant de monter dans sa voiture, escorté par une dizaine de motos de policiers. Il dormira ce soir à la prison de la Santé, une première pour un ancien président sous la Ve République.
Nicolas Sarkozy qui est donc détenu depuis 9h39, heure de Paris, soit 18h39 pour nous hier soir. Sa femme, Carla Bruni, a pu le voir au parloir dans l'après-midi et ses avocats ont immédiatement déposé une demande de remise en liberté. Il a été placé à l'isolement pour sa propre sécurité. Il ne croisera donc pas d'autres détenus. Il bénéficie de trois parloirs avec ses proches et à tout moment avec ses avocats qui considèrent cette incarcération comme infondée en droit. Maître Ingrin, l'avocat de Nicolas Sarkozy devant la prison de la Santé hier.
Les critères qui justifient cette détention ne trouvent pas à s'appliquer. On pourrait craindre qu'il ne se présente pas, qu'il ne reste pas à la disposition de la justice. À 9h35, un peu en avance, il était devant la maison d'arrêt pour être incarcéré. Il n'y a pas de risque de renouvellement des faits, pas de risque de destruction de preuves, il n'y a pas de preuves. Rien ne justifie la première heure de détention.
Et son objectif est donc de faire sortir au plus vite Nicolas Sarkozy. En théorie, la cour d'appel a 2 mois maximum pour examiner cette demande, mais il y a un temps d'audiencement incompressible. Généralement, il faut compter 1 mois. Ses avocats pourront, lors de cette audience, proposer une alternative, un contrôle judiciaire ou alors une assignation à résidence, scrupuleusement observée par l'ancien président, sous peine de se voir à nouveau incarcéré. Par ailleurs, Emmanuel Macron a réagi sur la question de l'exécution provisoire. C'est un débat légitime, dit-il, dans une démocratie, car tout le monde souhaite qu'il puisse y avoir des voies d'appel et de recours. Mais c'est un débat qui doit être mené dans le calme pour que notre justice puisse se faire et puisse évoluer dans la sérénité qui convient. C'est ce qu'a déclaré le président de la République lors d'une visite en Slovénie. Ni suspension, ni abrogation, ce sont là les mots d'Emmanuel Macron. Il s'est exprimé au sujet également de la réforme des retraites lors de ce déplacement en Slovénie. Juste un décalage et peut-être un référendum, a-t-il déclaré. Alors que Sébastien Lecornu annonce, lui, envoyer aujourd'hui une lettre rectificative au Conseil d'État pour intégrer la suspension de la réforme des retraites au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y aura donc bien un débat sur le sujet à l'Assemblée nationale, Alexis de la Fontaine.
Un débat et un vote sur la suspension de la réforme des retraites. Le Parlement aura le dernier mot, justifie le Premier ministre, qui a renoncé à l'utilisation du 49.3, mais qui veut tenir ses promesses.
Je souhaite vous dire que le Conseil d'État a été saisi cette nuit d'une lettre rectificative et qu'un Conseil des ministres aura lieu jeudi matin pour l'adopter. J'avais pris un engagement, c'est que le débat puisse avoir lieu. Il aura lieu comme le veut la démocratie.
Le résultat ne fait aucun doute. Avec les voix du Rassemblement national et de la gauche, la suspension de la réforme des retraites sera adoptée par l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines. De quoi satisfaire le patron des députés socialistes, Boris Vallaud.
Il m'a d'abord confirmé qu'il s'agissait bien d'une suspension intégrale qui concernera 3,5 millions de Françaises et de Français. Et il a satisfait la demande que nous avons formulée dès le milieu de la semaine dernière d'une lettre rectificative.
En revanche, cette suspension devrait être rejetée par le Sénat et retirée lors de la commission mixte paritaire. À l'heure où je vous parle, il est donc très difficile de savoir si cette réforme sera réellement suspendue le 1er janvier.
Et sur ce sujet, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a réagi au Parlement européen en parlant de carnage social. Et puis en bref, toujours aucune interpellation après le casse du Louvre. 4 malfaiteurs toujours en fuite avec leur butin. Le préjudice est estimé pour la première fois à 88 millions d'euros, soit 10 milliards 500 millions de francs. Il est 6h48, vous écoutez RRB, on marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire et notamment les évadés de la prison de Koné de nouveau devant le tribunal.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Vous voulez découvrir le golf gratuitement? C'est possible, grâce aux journées portes ouvertes proposées par le golf de Dumbéa du 19 octobre au 2 novembre. Passez une demi-journée en famille, initiez-vous au golf et dégustez des plats savoureux au restaurant Le Rix. Oui, vous avez bien entendu, Le Rix. Votre restaurant s'est déplacé de la piscine de Coutio au golf de Dumbéa. Alors n'hésitez plus, réservez dès maintenant votre initiation au golf au 41 80 00 et votre déjeuner au 46 78 32. À bientôt au golf de Dumbéa.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Info matin, la suite de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Actualité judiciaire et plusieurs affaires qui étaient jugées hier matin au tribunal correctionnel de Nouméa. Et la première concernait celle des incendiaires de Plastinor, Léana Colombo.
La société de Pointe-Boute, spécialisée dans la vente de tuyaux et autres matériels pour l'arrosage et l'irrigation, avait été la proie des flammes le 20 juillet dernier. 2 individus ont été condamnés à 30 mois d'emprisonnement avec 10 mois de prison ferme aménagée sous bracelet électronique et 20 mois de sursis probatoire. L'un a été reconnu coupable d'incendie, l'autre de complicité de dégradation et de vol. Les 2 jeunes hommes, âgés de 19 ans et originaires de Pointe-Boute, étaient dans un état d'alcoolisation avancé au moment des faits. Selon le compte-rendu de l'enquête, ils auraient passé la journée à boire avec un groupe d'amis au moins 5-6 bouteilles, a rappelé la présidente du tribunal. Une consommation d'alcool excessive, au point que les mises en cause ne se souvenaient même plus d'être entrées par effraction dans la société, l'avoir dégradé et volé du matériel avant de l'incendier. C'est tout d'abord grâce à la vidéosurveillance que ces jeunes ont été interpellés, puis des témoignages et enfin la vidéo filmée par l'un des deux auteurs au moment des faits, puis postée sur les réseaux sociaux. Un acte purement gratuit, résume la présidente devant les individus qui ont exprimé des regrets quant à leurs actes. Le gérant de Plastinor, représenté par son avocat Maître Rotter, s'est dit découragé et en colère. Découragé car sa société qui existe depuis 2001 et qui employait 10 personnes est désormais réduite en cendres. Et puis en colère parce que le préjudice est estimé à 620 millions de francs et que son activité est toujours à l'arrêt. En plus de leur condamnation, les deux individus sont soumis à une obligation de soins d'addictologie au cannabis et à l'alcool.
Et puis deux autres affaires qui ont beaucoup fait parler au moment des faits étaient également présentées devant la justice. Après leur condamnation pour s'être échappés de prison, deux des évadés de Koné étaient de nouveau devant le tribunal, Léana.
Les deux individus condamnés pour leur évasion purgent actuellement leur peine au camp Est et ils étaient de nouveau présentés au parquet pour tout d'abord une affaire qui ne concerne qu'un des deux prévenus. L'affaire concerne l'agression d'un enfant à Farino. Durant sa fuite, l'auteur des faits avait tenté de trouver une voiture. C'est ainsi qu'il se serait introduit dans la maison de cette famille originaire de Nouvelle-Calédonie. L'un des enfants, âgé de 11 ans, était dans la cuisine à ce moment-là en train de prendre son petit déjeuner. Le prévenu agresse alors l'enfant, puis dérobe un téléphone portable. Des faits que conteste le mis en cause. Reste que l'enfant est ressorti choqué de cette agression, tout comme les autres membres de sa famille. Famille qui était d'ailleurs présente pour cette audience pour tenter d'avancer, évoque la mère de la victime.
On voulait vraiment être ici aujourd'hui parce que l'affaire avait déjà été repoussée de 3 semaines et on voulait mettre en fait aujourd'hui un point final à tout ce qu'on ressent parce qu'au final on va le ressentir encore longtemps, hein, ce sentiment d'insécurité et puis de sorte d'échec par rapport au fait de protéger nos enfants. Mais on aurait voulu qu'aujourd'hui il y ait une reconnaissance de ce qui a été fait par cet individu. Or, il a tout au long du procès, là, il a nié les faits.
L'auteur des faits a été condamné à 18 mois d'emprisonnement et devra verser un peu plus d'1 million de francs de dommages et intérêts à la famille de la victime. Dernière affaire jugée ce jour, le casse de la station-service de Moindou, où cette fois, les deux individus ont reconnu les faits. Dans la nuit du 2 juillet dernier, un pick-up avait délibérément foncé dans le volet roulant de l'établissement. Identifiés grâce à la vidéosurveillance, plusieurs personnes, dont les deux évadés de Koné, avaient été vues en train de se servir dans les rayons et charger la benne du véhicule. Un séjour en prison prolongé pour les évadés de Koné qui sont donc condamnés à 1 an de prison chacun pour cette affaire d'effraction et de vol.
À Radio Rythme Bleu, 6h53.
Dans le reste de l'actualité ce matin, deux initiatives françaises soutenues par la communauté du Pacifique. Le 55e comité des représentants des gouvernements et administrations de la CPS, le CRGA, s'est tenu ce mois-ci. L'occasion pour l'État de faire agréer 2 projets, Charlotte Coulson.
Le premier concerne la conservation de la culture océanienne à travers l'audiovisuel. L'objectif est donc de lancer un programme régional de soutien à la création audiovisuelle océanienne. C'est le projet qu'a défendu Véronique Roger-Lacan, l'ambassadrice de la France dans le Pacifique, lors de ce 55e CRGA.
Pour l'audiovisuel, l'État, en tant que tel, a voulu participer à la création d'une initiative régionale parce qu'il y a beaucoup d'engagements bilatéraux avec certains États du Pacifique. Mais là, l'idée, c'est que tous les États du Pacifique puissent se mettre ensemble parce qu'ils ont très souvent une volonté de préserver leur culture qu'ils estiment en danger. Ils disent souvent « nous sommes en train de subir un tsunami culturel avec Netflix, avec les cultures anglo-saxonnes et occidentales, et notre jeunesse doit être au courant et façonnée par sa propre culture ». Et c'est à cette demande-là que nous avons souhaité répondre. Et l'idée, c'est vraiment de créer une industrie culturelle et créative océanienne.
L'autre initiative agréée et qui bénéficiera donc du soutien de la CPS apporte une réponse au problème d'érosion côtière que subissent de nombreux territoires insulaires du Pacifique. Ils cherchent un matériau peu coûteux pour construire des ponts, des quais, des digues. Un matériau comme le Sland fait à partir de scories de nickel. Le matériau est assurable grâce au référentiel de construction de la Nouvelle-Calédonie sur le territoire.
Le référentiel calédonien, c'est une vraie garantie en Nouvelle-Calédonie. Et là, l'idée, c'est que ce référentiel soit étendu à tout le Pacifique. Pour l'instant, la scorite nickel calédonienne n'est pas encore inclue dans les références de construction de tous les autres États du Pacifique. Donc, on finance une étude de faisabilité pour voir si cela sera possible. Et ça devrait l'être parce que les études sont conclusives. Et le deuxième point de l'étude de faisabilité, c'est une étude de logistique qui étudiera les moyens de transport disponibles dans tout le Pacifique pour transporter ce matériau. Notre idée à nous, c'est vraiment de trouver des solutions par le Pacifique pour le Pacifique.
Et au cours de ce 55e comité, la CPS a également renouvelé sa direction générale. C'est le Tongien Paola Vivili qui a donc été élu à la tête de la communauté du Pacifique.
Et c'est Véronique Roger-Lacan, l'ambassadrice de la France dans le Pacifique, qui sera notre invitée tout à l'heure à 7h30. Nous reviendrons avec elle sur ce 55e comité des représentants des gouvernements et administrations et sur la conférence annuelle de la CPS. Il est 6h56, on marque une dernière pause dans ce journal avant de voir l'actualité sportive et notamment le Paris Saint-Germain qui est en déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen. On parle de Ligue des Champions.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. La clinique vétérinaire de l'Hippocampe renaît après l'incendie. Retrouvez-nous au 4e kilomètre, 6 rue Chalier, avec du matériel de pointe dernière génération et une équipe disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vos compagnons à quatre pattes. Plus d'infos sur Facebook, clinique vétérinaire de l'Hippocampe.
Retrouvez toutes les gourmandises du marché Broussard le dimanche 26 octobre de 6h à midi au marché de Boulary. Cochons cuits au four, produits du terroir, jeux pour les enfants et animés par le groupe Los Valablos, tout pour passer une excellente matinée. Le marché de Boulary, toute la richesse de la proximité. Infoline 96 07 09.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Avec du football ce matin et place à la Ligue des Champions, troisième match de la phase de Ligue pour le Paris Saint-Germain qui est en déplacement sur la pelouse, je le disais, du Bayer Leverkusen. Luis Enrique a choisi de titulariser Désiré Doué, mais pas Ousmane Dembélé ni Marquinhos. Un choix donc gagnant pour le moment puisque Désiré Doué a inscrit un doublé. Il y a 4-1 à la mi-temps pour les Parisiens. Dans les autres rencontres du jour, on retrouve Arsenal qui reçoit l'Atlético de Madrid. Il y a 0-0 à la mi-temps. Le Borussia Dortmund et le FC Copenhague sont neutralisés également à la mi-temps. Un partout. Et puis on signalera que le PSV Eindhoven mène 2-1 face à Naples, que l'Inter Milan devance l'Union Saint-Gilloise 2-0 là aussi à la mi-temps et que Manchester City domine Villarreal 2-0. Et puis il y a eu un match qui est déjà terminé. Le FC Barcelone a étrié ce matin l'Olympiakos à domicile. Le Barça a gagné 6-1. Et puis du tennis, on joue toujours le premier tour du tournoi ATP 500 de Bâle. Côté français, Giovanni Mpechi Pericard a été battu par le Brésilien Joao Fonseca. En revanche, Valentin Royer a sorti le Belge Raphaël Collignon.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Mon cher Thierry, c'est tellement gris que vous pouvez nous donner l'heure du lever du jour.
Ah ben sans surprise, on commence par cette vigilance jaune avec de fortes pluies et des orages. Ça sera sur l'ensemble du territoire. Ce matin, le ciel sera souvent très nuageux avec des averses localement orageuses et ça se voit déjà. Le vent, lui, se maintient au secteur nord-est, 10 à 15 nœuds au point de la Grande Terre et dans certaines vallées sur le nord-ouest. Il sera faible ailleurs entre 5 et 10 nœuds malgré de possibles accélérations aux abords des averses. Cet après-midi, les nuages imposeront encore, des cellules orageuses se développeront sur le relief, déborderont localement vers les côtes et notamment sur l'ouest. De bonnes averses seront également possible sur les îles. Au point de la Grande Terre, le vent lui orienté est-nord-est pour cet après-midi, 10 à 15 nœuds. Ailleurs, il restera faible, mais des accélérations toujours possibles sont à craindre aux abords de fortes averses. Les températures maximales pour ce mercredi 22 octobre et pour cet après-midi, elles seront comprises entre 26 et 30 degrés.